Donc, la question centrale, c'est la suivante. Comment est-ce qu'on va retrouver toutes ces choses inconscientes qui nous mènent et qui nous habitent, et ensuite les changer, comment ça va être possible de changer? Comment retrouver ces mécanismes inconscients qui nous mènent à notre insu et qui sont cachés en plus derrière nos rationalisations? Alors, je vous avais parlé de plusieurs choses précédemment. La compulsion de répétition des traumas. Donc les traumas qui ont orienté notre vie, notre vision du monde, qui ont instauré des mécanismes de défense, et donc comment est-ce qu'on va faire avec eux, le fait qu'ils nous mènent en voulant à tout prix se répéter, et on verra pourquoi il y a cette compulsion de répétition, mais donc il y a quelque chose là qui nous pousse, qui nous mène, la compulsion de répétition des traumas. Le deuxième point que je vous ai souligné, c'est les identifications toxiques qui sont à l'intérieur de nous. Comme par exemple l'identification à l'agresseur. Non seulement ça installe des parties de soi qui vont continuer leur œuvre destructrice maintenant à l'intérieur, mais aussi qui parlent au nom de je. Et du coup, ça entraîne une perte de repère sur nous-mêmes, sur notre propre self. Et avec cette perte de repère, il y a aussi pourquoi est-ce que je fais ça? Je peux pas m'empêcher de faire ça. Alors du coup, il y a la culpabilité, la honte ou d'autres ressentis de cet ordre, puisque c'est je qui fais ça. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que je pense. Quelle horreur. En fait, c'est pas je, c'est l'identification à l'agresseur qui a colonisé une partie du psychisme et qui parle au nom de je. Donc la compulsion de répétition des traumas, l'identification à l'agresseur qui nous habite, ou d'autres identifications d'ailleurs. Certaines sont tout à fait utiles et d'autres sont très toxiques. Et ces identifications ne sont pas perçues comme telles, c'est-à-dire c'est des parties de nous-mêmes. C'est je parle, je choisis, je pense, etc. En réalité, non, c'est une partie de moi colonisée est en train de parler, de choisir, de dire qu'elle pense ça. Donc la compulsion de répétition des traumas, les identifications toxiques, les mots d'ordre qui sont installés en nous, qui sont des sortes d'injonctions installées dans le surmoi. Vous connaissez par exemple les principales indiquées par l'analyse transactionnelle. Sois parfait, sois fort, fais effort, dépêche-toi, fais plaisir, etc. En fait, ces drivers, ces mots d'ordre qui sont des injonctions qui nous mènent, ça tient lieu de pulsion, c'est ce qui nous mène malgré tout et indépendamment d'autres choses. Donc, compulsion de répétition, identification toxique, mots d'ordre qui sont des injonctions installées en nous, et enfin, les missions hérités du transgénérationnel, qui sont souvent d'ailleurs liés à des secrets du transgénérationnel. Il faudrait réparer la faute de un tel ou une telle, mettre en place des compensations, etc., qui ne sont pas notre propre mission de vie, mais qui sont hérités de ce que l'enfant a senti, perçu inconsciemment, comme des espèces de messages énigmatiques issus de la génération précédente et dont on est porteur. Alors, donc, une fois qu'on a bien compris que c'est ça qu'il faut voir pour le désamorcer, pour en trouver la racine et pour s'en dégager, alors même quand c'est bâti en les enfouissant pour ne pas les voir, pour les faire disparaître du conscient, et qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens psychiques de faire face à ça. Donc, il y a deux points qui vont se conjuguer, qui vont être délicats à gérer. C'est où et comment trouver les moyens de voir l'invisible. Et deuxièmement, où et comment trouver les moyens de faire avec ce qui apparaît alors, aussi terrifiant soit-il. Donc, c'est la question centrale. Alors, comment on va voir? Eh bien, c'est pas très facile, évidemment, vous vous en doutez. Pourquoi c'est pas très facile? Parce que la perception, que ce soit de la réalité extérieure ou de la réalité intérieure, la perception, on en a déjà parlé, passe par une représentation interne reconstruite. Je vois quelque chose Et vous savez que le cerveau le dissèque en différents morceaux, la forme, la couleur, la distance, etc. Et qu'ensuite le cerveau les reconstitue pour en faire une image, une représentation. Autrement dit, je ne vois jamais vraiment la réalité telle qu'elle est, mais la réalité telle que je l'ai reconstruite et représentée à l'intérieur de moi. Ça peut être relativement simple en ce qui concerne la réalité extérieure, encore qu'il y a énormément d'erreurs et de fausses perceptions qui ont été très bien analysées, je pourrais vous en citer tout un tas. Mais ça joue aussi pour la perception intérieure, c'est-à-dire qu'il y a différents morceaux de moi et il faut que je les reconstitue, je les réunisse en une représentation. Et j'ai la nécessité d'une représentation qui reliera les différents fils auparavant séparés. Cette représentation, donc, est notre travail de mise en symbolisation, si on peut dire. Or, cette symbolisation va porter sur des choses qui sont souvent très archaïques. Par exemple, Serge Tisseron a pas mal analysé les différentes parties qui sous-tendent le tout comme des fils qu'il faut relier. Alors, la première composante, c'est ce qu'il appelle le vécu sensori-affectivo-moteur. Autrement dit, ça commence par ça, quoi. Il y a quelque chose en nous qui sent et qui est affecté, et qui bouge, et ça, c'est ce qui se passe en nous. Et ensuite, il faut l'imager, et dans un troisième temps, peut-être réussir à le verbaliser. Donc, vous reconnaissez tout de suite les différents mots qui concernent le rêve éveillé, voir, vivre, verbaliser. Mais vivre est le premier. Comment est-ce que on va passer de cette chose vécue à sa représentation interne? En termes psychanalytiques, on dit comment est-ce qu'on va passer de la représentation de choses à la représentation de mots? Eh bien, ça va passer par l'intériorisation d'un espace transitionnel dont je vais vous reparler, qui lui-même, du coup, va créer cet espace interne sous contenant psychique dans lequel on va pouvoir réunir les différents fils de la représentation pour la mettre en place et pour symboliser ce qui est en train de se passer. Un espace transitionnel. Pourquoi? Il faut d'abord expérimenter l'espace transitionnel. Vous savez que le bébé et l'enfant, il doit expérimenter l'espace transitionnel, c'est-à-dire un espace dans lequel on est mêlés, les psychismes sont mêlés, le psychisme de l'un est mêlé avec le psychisme de l'autre, et on ne sait pas très bien ce qui est à l'un et ce qui est à l'autre, hein, dans la relation entre la mère et le bébé. Pour le bébé, c'est pas clair de ce qui vient de sa mère, si c'est le reflet de lui-même ou si c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle l'espace transitionnel. C'est comme l'objet transitionnel. L'objet transitionnel, c'est à la fois l'autre et à la fois moi-même. Et c'est indécidable de savoir si c'est de l'autre ou de soi. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'objet transitionnel, qui ne doit pas être détruit, puisqu'il représente à la fois l'autre et moi-même. Eh bien, l'espace transitionnel, c'est ça, c'est-à-dire un espace où se trouve mêlé le psychisme de l'un avec le psychisme de l'autre, et qui va ensuite progressivement être intériorisé comme étant mon propre espace interne individuel. Mais pour créer cet espace interne et individuel, il faut être accompagné par un autre qui lui-même a déjà créé cette possibilité de partage de son espace interne de représentation. Hein, la mère partage ce qu'elle se ressent de ce qui se passe pour le bébé. Et du coup, dans ce mélange des psychismes, je vais avoir comme une sorte de miroir qui va me permettre de savoir qui je suis et ce que je ressens. Hein, et de progressivement installer une zone interne de perception qui va me permettre de symboliser ce qui se passe en moi et de se le représenter. Et en particulier, la symbolisation ultime qui sera la symbolisation verbale dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. On a presque l'exemple à contrario avec les enfants loups, dans la mesure où on a pu étudier, ce qui est quand même assez rare parce qu'on ne sait pas exactement s'ils sont vraiment du départ élevés par un animal ou pas. Mais bon, dans la mesure où ils ont été très précocement élevé par un animal, eh bien, il reste quasiment débile et avec l'impossibilité de parler vraiment, de véritablement symboliser. Donc ça veut dire que au départ, le bébé, comme vous le savez, a besoin du psychisme parental, du psychisme maternel, pour pouvoir s'intégrer dans la communauté humaine et apprendre à représenter en soi ce qui est en train de se passer. Or, ce qui est traumatique, c'est justement ce qui est impossible à intégrer, à symboliser pour des raisons différentes. Par exemple, soit c'est quelque chose qui s'est passé avant même toute création de cet espace interne, tout au moins de cet espace interne. Et si ça s'est passé avant même la création de cet espace, ben, il n'y a pas eu la possibilité de le contenir et de le percevoir. D'où l'idée d'un certain nombre de psychanalystes comme quoi il y a des zones qui sont des sortes de zones de folie à l'intérieur de nous, parce que c'était antérieur à toute possibilité de se les représenter. Ça, c'est traumatique. Une autre chose qui est traumatique, c'est quand l'émotion de la situation qui est en train de se passer dépasse le seuil habituel. Et en général, cette émotion qui dépasse le seuil habituel se présente lorsque la situation est mal gérée par l'adulte qui fait partie de l'espace transitionnel commun. Et donc, ça va nous donner une idée de pourquoi certaines situations transgénérationnelles sont traumatiques, parce que l'adulte en question n'est pas à l'aise avec cette question-là, et du coup, il vit avec l'enfant une situation qui présente des aspects incompréhensibles. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent créer des traumatismes à l'intérieur de nous, c'est-à-dire avant toute création de l'espace du contenant psychique, lorsqu'une émotion dépasse le seuil habituel, et aussi du point de vue transgénérationnel, lorsque la situation présente des aspects incompréhensibles, en général en rapport avec le déficit dans ce domaine de l'adulte accompagnant. Donc ça, c'est les points qui créent un traumatisme à l'intérieur de nous. Et en reprenant ces points, les différents points que je viens de dire, on aperçoit l'importance capitale en psychanalyse de différentes choses. Premièrement, de l'espace transitionnel, où vont se trouver mêlés les psychismes, le psychisme du patient et le psychisme du psychanalyste. C'est nécessaire que cet espace-là existe et qu'il y ait une sorte de mélange des psychismes. On en a déjà parlé. Donc c'est un point capital. Un autre point capital, c'est que il va falloir faire une formalisation des vécus qui ont été clivés ou refoulés. Et en psychanalyse réveillée, on a deux espaces pour cette formalisation. D'une part, le rêve éveillé qui représente exactement le fonctionnement symbolisant qu'on aura plus tard, une fois qu'on aura son espace interne de symbolisation. Le rêve éveillé représente exactement le fonctionnement symbolisant. Et d'autre part, le psychisme du psychanalyste, qui va devoir lui aussi, comme celui de la mère, intégrer et formaliser à l'intérieur de lui ce qui a été clivé ou refoulé. Et ça, évidemment, grâce à son espace transitionnel interne qui est l'espace du préconscient. Mais ça suppose aussi un travail permanent sur les enjeux transféro-contre-transférentiels, puisque la zone aveugle du psychanalyste entraînerait, comme dans l'histoire des transgénérationnels, le maintien de l'incompréhensible. Si ça tombe pile sur une zone aveugle là aussi, qui n'aurait pas été traitée suffisamment chez le psychanalyste, eh bien on retrouve la question de l'inscription du transgénérationnel dans le psychisme du patient. Donc voilà, ça c'est toutes les façons qu'on aura d'essayer de voir et de symboliser et de créer un espace interne de symbolisation. Mais comment est-ce qu'on va arriver à une transformation ensuite du rapport qu'on a avec cet inconscient qui nous menait jusqu'à présent d'une façon invisible? Eh bien, il faut d'abord et avant tout le voir, le sentir, le retrouver symboliquement. Ce traumatisme ou cette identification toxique ou ce poids transgénérationnel ou enfin bref, tout ce qui nous mène, il faut le voir, le sentir et le retrouver. Sinon, on ne peut rien faire. Donc, comment est-ce qu'on va le faire? dans le travail en psychanalyse rêve éveillé, bien c'est une fois que on aura commencé à le symboliser dans le rêve éveillé, il y aura un travail qu'on appelle l'analyse métaphorique. Donc ça veut dire un travail intersubjectif, puisque les deux jouent avec le sens possible sous-jacent grâce aux métaphores. Donc un travail intersubjectif, mais qui lui-même renforce et met en place un travail personnel subjectif, c'est-à-dire que la personne va ensuite s'approprier ce genre de travail. C'est là où on retrouve la fonction paternelle. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en psychanalyse rêve éveillé, on parle de la nécessité d'une bienveillance inflexible. Bienveillance, ça veut dire d'être totalement comme une bonne mère, une bienveillance maternelle indispensable, qui accueille, qui accompagne, qui rêve avec le patient, qui retrouve avec le patient, etc. Ça, c'est la bienveillance indispensable. Mais en psychanalyse rêve éveillé, on parle de bienveillance inflexible. Et inflexible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on n'est pas là pour rêver dans un bon petit cocon immature en jouant le jeu attendu par le contre-transfert. On est là en tant que psychanalyste pour inflexiblement chercher le sens de tout ça. Et donc, pour pas se reposer sur uniquement l'accord bienveillant entre nous deux, il y a un côté plus inflexible. Et ça ressemble à la fonction paternelle qui a une fonction séparatrice et médiatrice dans la relation mère-enfant. Une mère qui serait trop collée à son enfant, qui serait l'unique et universelle référence, empêcherait la diffusion d'avec son propre psychisme et donc, pour l'enfant, l'observation de sa propre subjectivité personnelle dans son propre espace interne personnel différencié. Or, classiquement, la fonction du père, c'est justement de dire « Attention, moi, j'existe et je sépare la mère et l'enfant qui seraient trop collés sinon. » D'une certaine manière, il a une fonction séparatrice et médiatrice. Eh bien, cette fonction qu'on retrouve dans l'inflexibilité paternelle du psychanalyste rêve éveillé, inflexibilité au sens de dire on est là pour trouver le sens et pas juste pour baigner dans une relation maternelle fusionnelle, et bien d'une certaine manière, en faisant ça, on favorise la reconstitution de deux imagos parentales saines. D'un côté, la bienveillance inconditionnelle maternelle et d'un autre côté, l'image parentale séparatrice qui va permettre d'observer ce qu'on vient de vivre et de prendre de la distance pour le travailler. Et bien, si on fait ça, ça donnera ultérieurement au patient une aisance autosubjective au niveau de l'écoute de ce qui est en train de se dire en soi, au niveau de ce qui veut se dire en soi. Ce qui rejoint le thème qu'on a déjà abordé, du vrai self, de la boussole interne. Plus tard, une fois qu'on a reconstitué sainement à la fois un espace de compréhension interne et la gestion de ce qui veut se dire en soi, eh bien, on va avoir deux styles, deux façons de faire, qui ressemblent à la question de la bienveillance inflexible. On va d'une part accueillir avec bienveillance tout ce qui cherche à se montrer, les images, les fantasmes, les rêveries, les impulsions, les schémas de comportement, enfin tout ce que je vous ai expliqué précédemment, hein, impulsions, attachements, etc. Donc on va tout accueillir avec bienveillance. Mais ensuite, on va garder une position méta pour observer, comprendre et choisir. Donc on est à la fois bienveillant envers tout ce qui monte en nous, et à la fois inflexible sur « ça a du sens, il faut que je trouve le sens, et ensuite je choisirai ce qui est le plus adapté à ma propre mission, et non pas à quelque chose qui aurait pu m'être inclus depuis les générations précédentes. » Eh bien, c'est pareil pour tout, c'est pareil non seulement pour le traumatisme, mais aussi pour l'identification toxique, avec son discours intérieur, c'est ce que je vous avais dit l'autre fois, qui est en train de parler. Alors j'écoute inconditionnellement ce qui est en train de se dire. J'ai des envies de meurtre, j'ai des envies de violence, j'ai des envies de sexe, peu importe, j'écoute tout. Et puis ensuite je me dis, attends, est-ce que c'est ce désir d'autodestruction, par exemple, ou de critique massive envers moi-même, ou etc. Est-ce que c'est moi, ou est-ce que c'est le je qui a été colonisé par telle et telle identification. Ben ça peut se faire que si on a pris une longue habitude de deux choses qui vont s'élaborer au fil de la psychanalyse. D'une part, du jeu représentatif et symbolisant, c'est-à-dire j'ai l'habitude de jouer avec ce qui se dit en moi et de me le représenter, de laisser venir mes images, mes sensations, mes perceptions, mes fantasmes, etc. J'ai une longue habitude de ce jeu représentatif et symbolisant à l'intérieur de moi, que j'ai connu dans ma psychanalyse, puisqu'on faisait du rêve éveillé régulièrement. Et j'ai d'autre part une longue habitude du plaisir, qui a été longtemps partagé entre le psychanalyste et son patient, mais qui est en même qui est le plaisir pour le patient prioritairement, du plaisir à comprendre le sens. Pourquoi du plaisir? Parce qu'en fait, cet investissement libidinal sous-tend nos actions de vie. Il faut qu'il y ait du plaisir, il faut qu'il y ait une espèce de pulsion sexuelle quoi là-dedans, si on peut dire. Et ce plaisir de comprendre va me permettre d'éviter d'être uniquement fasciné par ce qui est en train de se représenter à l'intérieur de moi. Donc je le laisse venir et je cherche à comprendre ce qui est en train de se dire. Et c'est comme ça que j'ai mon vrai self aux commandes et que je peux m'orienter avec ma propre boussole interne. Évidemment, tout ça va être acquis par une longue habitude de cette pratique au cours de la psychanalyse et du fait d'être deux pour le faire. Au final, on pourrait dire que la symbolisation ultime, c'est la symbolisation secondaire, c'est-à-dire le passage par la compréhension verbalisée. Je comprends, je me le dis à moi-même, ce qui s'est dit d'abord en symbolisation primaire, particulièrement en rêve éveillé, quoi. J'ai le rêve éveillé et puis ensuite j'essaye de comprendre le sens. Je passe d'une symbolisation primaire à une symbolisation secondaire et le langage qui va me permettre de comprendre ce que je suis en train de vivre et de le mettre en forme, sous une forme verbalisée, va reprendre tout ça, va reprendre l'action qui se passe en moi, l'émotion qui se passe en moi, l'image qui se passe en moi, autrement dit tout ce qui est représentation de choses. Et à partir du moment où je le reprends avec le langage, eh bien j'ai une prise de conscience qui va me permettre de faire des choix concernant ces traces, concernant ces drivers, concernant tout ce qui me menait jusqu'à présent, et avec lequel j'en aurais fini si j'ai pu le travailler suffisamment en rêve éveillé. Mais même si je ne l'avais pas complètement fini, même s'il en reste des traces, ce qu'on pourrait comparer à des cicatrices, eh bien ces cicatrices, quand elles en tapent dessus et qu'elles sont douloureuses, je les reconnais. Et ce n'est pas pour autant que je vais refaire la même chose que ce que je faisais auparavant, quand j'étais mené par l'infantile en moi et par le non-approprié en moi. Voilà, donc c'était juste pour vous donner un petit topo sur pourquoi il faut qu'on symbolise et qu'on se représente tout ce qui nous mène inconsciemment et qu'on réussisse à l'amener jusqu'au niveau de la prise de conscience. Eh bien, parce que c'est comme ça qu'on se libère de toutes ces traces qui ont été vraiment déterminantes dans la suite de notre vie. Donc, dans un premier temps de vie, évidemment, on va être possédé par tout ça et progressivement, notre chemin d'humanisation, c'est justement de ne plus se laisser leurrer par tout ce qui est issu de cette pensée infantile et de tous ces traumas qui ont pu nous mener pour pouvoir choisir une vie qui soit plus conforme à notre propre mission, notre propre destin, notre propre chemin et non plus simplement quelque chose qui est mené malgré nous. Je vous laisse réfléchir à tout ça et on en reparle.